Je vais le trouver chez les Grecs et aussi Marx, Karl Marx a utilisé également. C'est une pensée comment on peut réconcilier des opposés. C'est ça le yoga, c'est vraiment. Quand il y a deux contraires, et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut transcender des contextes de conflit? Donc ça devient la science de l'harmonie, ou harmonisation, avec une approche globale, holistique. Petit rappel par rapport à hier. On avait énuméré les 8 membres de yoga. On avait énuméré également qu'est-ce que c'est le yoga, qu'est-ce qu'on arrête. Donc on avait parlé des activités à arrêter, à stopper. On avait vu également comment on peut stopper. Et aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui était utilisé comme un outil d'exploitation. C'est Dieu. Vous parler, on va dialoguer. Donc si vous avez des choses à partager, il faut m'arrêter. Sinon je vais continuer sans savoir si ce que vous pensez. Donc, j'ai besoin que ce soir soit dialogue. Je viens de dire quelque chose de choquant. Ça ne vous avait pas choqué. Oui. Ça va choquer? Non. Dieu, c'est une idée qu'on a utilisée depuis des milliers d'années pour exploiter. Exploiter l'ignorance. L'ignorance de Dieu. On ne sait pas ce que c'est. Et avant de présenter Ishwara, j'ai envie, qu'est-ce que vous mettez derrière ce nom? Ce mot? Dieu.
L'univers?
Lumière.
L'univers. Lumière,
amour,
source,
créateur,
expérience en cours, work in progress,
expérience en cours,
de fabrication, et renouvellement, etc.
Être vrai, hein, mais je ne sais pas. En tout cas, le mot Dieu en français, donc si vous cherchez la racine de ce mot, on trouve en sanskrit Deva. Ça veut dire lumière. Lumière de lumière. Parce que ce n'est pas la lumière des ampoules, quoi. C'est la conscience qui éclaire le monde. Donc ce n'est pas l'univers, parce que l'univers est éclairé par cette lumière. Créateur, donc c'est une définition souvent utilisée, mais il ne crée pas. Il ne fait pas quelque chose, il ne fait que éclairer. C'est-à-dire cette ampoule qui brille, il n'est pas en train de participer à ce que je dis. Il est témoin, neutre, il ne fait que éclairer. Je suis en train de regarder le mot Dieu. Lumière. Est-ce que cette lumière a un fuel, quelque chose qui alimente cette lumière? C'est-à-dire là, ça c'est l'électricité. Si vous allumez le feu, il y a quelque chose qui consomme. Est-ce qu'il y avait un début? Est-ce que ça s'éteint un jour? Compliqué, hein? Ça c'est le mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Maintenant je voulais vous présenter ce que c'est Ishwara. Donc ce n'est pas ce qu'on vient de dire. Ishwara, c'est une idée du yoga. Le yoga propose cette idée, Ishwara. Et souvent, très facilement, on traduit Dieu dans beaucoup de livres. Même celle-ci, Françoise Mazet, elle a traduit comme Dieu. C'est compliqué, on ne peut pas traduire. On ne peut pas traduire par ce mot. Dieu. Je vais expliquer comment Patanjali définit Dieu. Patanjali, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de ce livre qui rassemble toutes les connaissances du yoga à l'époque. Donc, Patanjali n'est pas la personne qui a inventé le yoga. Il fait que rassembler les idées existaient à l'époque à un livre. Est-ce que c'est intéressant qu'on explore cette idée? C'est oui. Important pour moi. J'ai toujours pensé que s'il y a un Dieu qui est créateur, il y a un souci. Parce que il y a des imperfections dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et il y a beaucoup d'injustices. Si c'est un Dieu d'amour, pourquoi il intervient pas? On dit Dieu t'écoute, mais pas de signes. Il ne répond pas. En tout cas, il ne répond pas comme si on dialoguait entre nous. On a besoin de comprendre ce mot Ishwara. Ishwara, c'est traduit le plus souvent comme la loi. Si vous lâchez quelque chose, ça tombe. C'est la pesanteur, c'est la gravité, quoi. Donc c'est tout ce qui contrôle, qui dirige notre vie, cette loi, mais particulièrement notre bonheur intérieur. Est-ce qu'il y a des lois qui contrôlent notre bonheur intérieur? Le yoga dit que oui, il y a des lois de la joie. Donc si on ne respecte pas les lois, on va avoir, c'est comme les codes de la route. Quoi. Si vous ne respectez pas les lois, on a des accidents. Donc particulièrement le mot
Ici, Ishvara, ça veut dire la loi qui décide si on est heureux ou pas. Donc, si on connaît Dieu, on peut très facilement entrer dans un état de joie. Est-ce que c'est intéressant maintenant, cette exploration de ce nom, Ishvara? Si j'ai une blessure dans mon corps, même si je ne fais rien, une loi qui se met en opération, toutes les cellules autour, tous les anticorps, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, pour le guérir. Donc il y a une force de protection qui opère pour notre bien-être. On est tous conscients de ça, mais on ne fait pas trop attention. Comment le sourcil? Pourquoi il y a le sourcil? On peut tout à fait vivre avec, sans le sourcil. Et beaucoup de fonctionnement, c'est le tri des molécules dans les parois de l'intestin. Qui est là pour savoir chaque, pour trier chaque molécule, et chaque molécule était envoyée dans des organes qui concernent. Donc Dieu, dans le Yoga Sutra, Ishvara, c'est regarder comme cette énergie ou une loi de bien-être. C'est aussitôt qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe pour le régler. Soit dans notre corps ou dans le monde. On parle de trous dans l'ozone. Si sur la peau, il y a des activités qui vont se faire pour le régler, pourquoi pas cette loi qui doit également opérer pour des choses comme ça. C'est-à-dire dans l'univers, comme c'est très important par rapport à la continuité de la vie, il y a quelque chose qui est tout le temps en opération pour que l'harmonie règne dans le livre. Les passeurs de l'air sur Terre, c'est 200 km. Si ça réduit un peu ou cesse un peu plus, les conséquences sont immenses. C'est pareil, les qualités des petites choses comme l'eau, quoi. Donc l'eau, normalement quand on chauffe quelque chose, ça s'agrandit, quand on refroidit, ça se contracte, sauf l'eau. Après 4 degrés, ça gonfle. Si on refroidit l'eau, et donc la neige, la glace, ça flotte. Si la glace ne flotte pas, il n'y aura pas la vie sur Terre. Pourquoi particulièrement l'eau a cette qualité? S'il n'y a pas cette qualité, la vie, c'est impossible. Donc on peut trouver des milliards de choses comme ça. Donc on peut rencontrer Ishvara tout le temps. C'est ça que nous voulons réaliser. Quand les pommes, en train de fabriquer la pomme, le pommier sait ce qui va se passer dans le tube digestif de la personne qui est en train de manger. Comprenez les connexions entre un arbre et notre corps. C'est réglé avec une incroyable précision la vitesse de lion et un cerf. C'est-à-dire un animal, un fauve sauvage, pour attraper ses proies seulement si c'est malade. C'est-à-dire qu'il ne peut pas attraper les jeunes qui ont plein de capacité de reproduction. Mais un chasseur, il va tirer sur le plus gros. En fait, nous ne sommes plus en harmonie avec cette loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de question, est-ce que Dieu existe ou pas? Est-ce que Ishola existe ou pas? C'est ça que le Yoga Sutra qui nous amène comme idée. Ishola, c'est en tant que principe de maître. Maître. Enseignant. Cette loi est là pour nous enseigner. Donc le yoga se traduit pour les chamas et le logo, c'est-à-dire, il était le maître de nos ancêtres et de nous, et aussi de notre progéniture. Il y a une énergie de maître. Le maître, ça veut dire, vous allez dans une mauvaise direction, immédiatement le dos se pince, se contracte. Est-ce que vous avez cette expérience? Vous êtes tranquille à la maison en train de faire des crêpes, que quelqu'un qui appelle, viens, on va sortir, vous n'avez pas envie, mais quand même, pour ne pas froisser la personne, vous allez sortir quand même, mais pour rentrer avec mal à la gorge. Ou mal au ventre. C'est-à-dire, il y a un enseignement sans cesse. Donc, Ishvara, c'est le maître. Il va ou elle va, mais on ne sait pas, c'est une loi, on ne peut pas attribuer absolument aucune idée de masculin, féminin, c'est pas du tout, on ne peut pas créer un anthropomorphe, on ne peut pas créer absolument aucune image, mais c'est une loi, c'est une énergie opère pour tout le monde. Ça touche tout le monde, les plantes, les animaux, les communs, pour tout le monde, cette loi est sans cesse opération. Aussitôt qu'on s'éloigne de notre chemin, il y a des pépins. Quand vous êtes dans le chemin, tout va bien. Donc on a besoin de savoir ce que c'est le chemin. Où on va? Qui est le chemineur? Pourquoi ce chemin? Donc Ishvara, c'est la lumière qui éclaire le chemin. On peut se manifester quand on est dans un état d'éveil, ou rêve, ou le sommeil profond. Le maître Ishvara, il est toujours en train de nous donner un enseignement et on n'écoute pas. Et donc il augmente le volume. Peut-être un petit mal au dos, on n'écoute pas. On continue dans la mauvaise direction. Vous savez bouger un petit peu les vertèbres. On continue encore dans la mauvaise direction. Après ça fait une heure et demie. On continue dans la mauvaise direction. Après, ça va pincer les nerfs sciatiques, on commence à avoir des soucis pour marcher. On continue dans la mauvaise direction. Et après, on ne peut plus marcher. On continue dans la mauvaise direction. Donc, ça veut dire, il y a des signes et que je vous demande de l'écouter. Et souvent, on n'a pas l'habitude d'écouter ça. Aussitôt, par exemple, j'ai mal à la tête, mais je ne cherche pas qu'est-ce que c'est qui a déclenché la mal à la tête, on apprend à chercher. Donc, Ishwara a besoin de maintenant chercher un autre moyen. Ça va devenir meilleur. Donc, ça, c'est côté flagrant que j'ai dit, mais par contre, Ishwara, c'est le guide de chacun. Donc vous avez votre propre Ishwara. Parce que moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe chez vous. Mon Ishwara s'occupe de moi et votre Ishwara s'occupe de vous. Donc chacun a son Ishwara personnel. On appelle Ishta Devata. Donc cette idée est acceptée dans le yoga. C'est le principe cosmique, ça veut dire il y a plein de choses comme ça, il y a des choses universelles, mais ça opère chez chacun. Et c'est le même principe cosmique, mais c'est comme un octopus qui a plusieurs tentacules, mais chaque tentacule qui va vers chaque personne. C'est-à-dire, à l'intérieur de chaque individu, il y a une intelligence infinie et prévue. Ça fait du bien ? Avec cette lumière, si on lit des textes religieux, et on va voir immédiatement, et c'est pas le même Dieu qu'on parle, parce que dans les textes sacrés, Dieu qui dit tu tueras point, et après il dit massacrer tout le monde. Comprenez? Le Dieu qui dit vous êtes le peuple choisi, et les autres sont moins que rien. Là, c'est pas le même Dieu. Donc je voulais distinguer ce que le yoga nous propose. C'est un petit puce à insérer dans notre cerveau pour nous guider. Pour chacun, à l'intérieur de lui, il y a un guide. Et écouter ce guide, on appelle Ishwara Pranidhana. Ishwara Pranidhana, ça veut dire écouter ce guide à l'intérieur de nous. Donc le Patanjali, dans son Yoga Sutra, la première chose qu'il dit, parce que c'est le plus simple, pour arrêter toutes les agitations intérieures, pour entrer dans un état de joie permanente, c'est écouter le maître à l'intérieur, mais on ne nous a pas appris ça, on nous a dit c'est dans le bouquin. On nous a dit c'est le grand, il faut obéir le grand, il faut obéir le maître, les enseignants, l'état, la loi, il faut obéir la loi extérieur. Donc il y a une loi intérieure, donc ça c'est Ishwara. Donc si vous écoutez cette source immense, infinie du maître, donc il y a la possibilité, il y a une possibilité de lui ressembler. C'est c'est-à-dire il n'y a plus de division, il n'y a pas deux intelligences en conflit. C'est ça, le yoga. Le yoga cherche à travers les pratiques cette intelligence cosmique qui est intégrée à l'intérieur de chacun. Peut prendre de l'importance sur notre intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ça veut dire ce qu'on a trouvé à l'école. C'est artificiel. Ce n'était pas l'intelligence intégrée. Malheureusement, notre éducation ne met pas en valeur cette intelligence intégrée. Pas, peut-être vous avez des souvenirs des années dans les écoles quand vous avez des bonnes notes ou des mauvaises notes. On ne sait pas parler et qu'on a, mais c'est dommage, on ne nous a pas dit quand on était petit qu'on avait une intelligence infinie à l'intérieur de nous. On nous a dit c'est toutes les intelligences, c'était dans le bouquin, dans la bibliothèque. Maintenant, c'est sur Google. Donc, c'est un effort maintenant, même si c'est un peu tard, de retrouver cette intelligence à intégrer. C'est Ishwar. Mais comment? Patanjali qui nous donne quelques pistes. Vous voulez savoir? C'est pas une information juste pour retenir, hein? C'est pour mettre en application. Cette loi que nous parlons est représentée verbalement par le mot OM. OM. Vous avez entendu, hein, pour le yoga, on chantait OM. Quand il dit, ça suffit de le chanter. Pour rentrer en contact avec l'intelligence intégrée à l'intérieur de nous. Au lieu de bavarder à l'intérieur, plein de choses, des milliards de choses, répétées. Ce sont un effet harmonisant. On n'a pas besoin de savoir toute la philosophie hindoue. Ça suffit simplement de dire. Chaque expire. névrose collective. La névrose collective, ça veut dire si quelqu'un parle seul, il est fou. Même si il a pris. Mais comme tout le monde fait ça, c'est normal. Mais selon yoga, si quelqu'un parle seul, ça veut dire qu'il communique sans signe dans le corps. Il y a l'émetteur, mais il n'y a pas de récepteur. Donc au lieu de bavarder, on va dire, cette vibration qui va stopper toutes les bavardages intérieurs, pas seulement ça, ça va créer cette vibration, bien sûr c'est pas silence, c'est vibration, mais ces vibrations à qualité de silence. Mais si vous faites ça comme on est en train de faire, les autres vont regarder avec des grands yeux. Donc je vous invite de dire à l'intérieur de la tête. Moi je fais ça, je fais tout le temps. À chaque expiration, je dis dans ma tête, personne n'est au courant. Le yoga, c'est assez génial parce que Patanjali, il veut faire gagner du temps. Donc il dit la dernière chose en premier. Comme ça, ceux qui ont capté peuvent partir. C'est assez, hein, que vous pouvez maintenant, vous avez compris quelque chose et c'est assez. Vous n'avez pas parti. Voilà, il continue à dire quelques précisions encore. Tadjabaratadartaparanam, c'est-à-dire, maintenant, ce sont, on vous donne un sens. Om, ça veut dire le tout. Tout. Le tout. Parce que notre pensée est analytique. Ça va vers des fragments. Ça ne va pas vers le plus en plus général. Je regarde un arbre, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des racines. Et après, je prends une feuille, je regarde ce qui est dedans, il y a des cellules. Après, je regarde ce qui est dedans. Il y a des chromosomes, il y a des ADN, etc., etc. Donc, c'est un mouvement qui génère de plus en plus de mots. Je dis, un arbre, c'est, en fait, c'est une partie des forêts. C'est comme ça qu'on dit, l'arbre qui cache les forêts. Et on n'est pas dans ce mouvement vers le tout, on est vers le fragment. On ne sait plus. Notre cerveau est formaté pour aller vers le fragment. Pour comprendre une fleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va disséquer, mais à la fin, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus rien du tout. Découper pour comprendre. Mais en fait, le yoga cherche le chemin à l'envers. Placer l'individu au centre de l'univers pour comprendre son rôle qui il est. On ne va pas faire rallonger sur un canapé, sur un divan et chercher ce qui s'est passé dans son passé. Comprenez le mouvement, c'est à l'envers. Om, ça veut dire le tout. Qu'est-ce que c'est le tout? Le présent, le passé, le futur. Et tout ce qui transcende le temps et l'espace. Tout ce qui est imaginable, tout ce qui n'est pas imaginable. Tout ce qui est articulable, tout ce qui est ineffable. Tout ensemble, c'est OM. OM, c'est vous, OM, c'est moi, OM, c'est le tout. Le tout. Donc, diriger notre pensée vers le tout. Là, ce qui se passe, la pensée s'arrête. Essayez d'imaginer le tout. Demandez votre pensée d'embrasser, comprendre, accueillir le tout. On se perd, la pensée se perd, l'ego disparaît. Le tout. Méditez sur le tout. N'oublie pas, on est en train de comprendre comment entrer en contact avec Ishvara. Une autre méthode pour entrer en contact avec Ishvara, c'est suivre le souffle. Simplement écouter le souffle. C'est bien avant Bouddha et cette écriture. Bouddha n'a pas rencontré Patanjali. Bouddha, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Il cherchait un remède pour la souffrance, il n'a pas trouvé. Donc il était très embêté parce qu'il avait une place très très haute dans la société. Il était prince, il voulait devenir roi. Il ne voulait pas revenir avec cet échec. Il est parti pour chercher le remède pour la vieillesse, la maladie et la mort. Donc comme il a trouvé, il a compris que ce n'est pas possible, il a décidé de se suicider. Vous connaissez? Il a arrêté de manger, il est assis sous un arbre, il attendait que la mort. Donc la mort, c'est une fois qu'on est mort, on ne respire plus. Donc regardez, est-ce que ça va s'arrêter? Il a observé le souffle. Il a compris quelque chose d'étonnant. Si vous observez le souffle, vous rentrerez dans l'éveil. Vous pouvez commencer tout de suite. Hein. Parce que ça va s'arrêter sinon un jour. Profitez du temps qu'on respire. On n'est pas sûr qu'il y aura un autre
cycle respiratoire.
C'est des pratiques. Apparemment, c'est très simple, mais c'est souvent on est conditionné pour régler des problèmes très complexes. Donc on se dit, mais c'est trop simple. On aime bien quand il y a des formules, des équations très très longues. Observer le souffle, c'est assez. Pour rentrer en contact avec Ishwar. Je vous avais donné deux méthodes. Voire trois. Soit vous chantez tout simplement Om, particulier ou pas, ou ajouter les sens, ou tout simplement observer le souffle. Je continue?
Oui.
Vous avez besoin? Il est entré dans le samadhi, dans l'état d'éveil. Il a compris qu'en fait le moi n'existe pas. Le moi, c'est la souffrance. La maladie, la mort, la vieillesse, tout ça c'est à cause de cette identification au corps. Une fois que j'ai compris que je ne suis pas le corps, ben c'est fini. C'est pas moi qui est malade, c'est le corps. C'est pas moi qui va mourir, c'est le corps. Il a compris ça. Tout simplement en observant le souffle. Vous pouvez remarquer que quand vous observez votre souffle, vous arrêtez de penser. Quand vous pensez, vous êtes plus conscient de votre souffle. Parce que la pensée, c'est la parole inarticulée. Pour le parler, j'ai besoin de souffle. C'est le souffle qui se transforme en parole. Pour pouvoir parler, j'ai besoin d'expirer, d'utiliser cet air. Partager tout ça avec vous. Je suis vraiment malheureux. Je dis la même chose aux Indiens. Il y a 5-6 personnes qui... ici. Mais c'est tant mieux parce que sinon on n'aura pas de place. 5-6
quoi?
Il y a
5-6
personnes.
Les Indiens ne sont pas là pour écouter la même chose. Donc je suis content que vous êtes là pour écouter. C'est tellement simple qu'il peut transformer votre vie, votre façon d'habiter votre corps. C'est-à-dire si je m'identifie au corps, je vis ma vie différemment qu'aussi je sais que je suis autre chose que le corps. Là, on habite le corps différent. On est plus libre. Quelle est la différence entre une prison et une maison? La prison, on peut sortir que si on le laisse partir. Mais la maison, si on peut sortir et entrer quand on veut. Donc une fois qu'on a compris que je ne suis pas le corps, je suis dehors et dedans en même temps. je sors de cet emprisonnement que nous vivons, qui est lié au corps. Alors, si tout ça, ça vous semble compliqué, ou c'est pas assez compliqué, vous avez une autre solution. C'est quand vous faites quelque chose, pensez à ce que vous faites et faites ce que vous pensez. Vous comprenez? Pensez à ce que vous faites et faites ce que vous pensez. Il n'y a pas de séparation entre l'action et l'acteur. Quand tu inventes, tu fais que ça. Tu ne réfléchis pas à autre chose.
Si, je réfléchis. J'ai une question.
Alors, si tu réfléchis, c'est fini.
Non, vas-y, parce que ce que tu m'intéresses, c'est... Enfin, ce que tu dis, ça m'intéresse. Parce que ma question, c'est, est-ce qu'on choisit notre corps?
Est-ce que je choisis mon corps?
Est-ce qu'on est dedans et dehors? À un moment donné, peut-être qu'on a choisi ce corps?
Si on m'avait donné le choix, j'aurais choisi le corps d'un prince ou des parents riches. Bon. C'est, en fait, je ne sais pas. Ce que le yoga dit, c'est le karma. C'est les conséquences de notre action de vie passe. Selon le yoga, c'est une continuité. C'est-à-dire, si je meurs sans avoir fini mes projets, je vais reprendre un autre corps au sein de certaines familles qui me permettra de poursuivre le projet. C'est pour ça qu'il est important de mourir sans projet. Finissez tous les projets. Épuisez tous les désirs. Donc, avant d'arriver au bout de la vie, terminez tout. Comme ça, ça ne va pas recommencer. Mais par contre, si vous avez envie de continuer, gardez plein de désir. Mais choisissez le désir. En fonction du désir, la prochaine vie se déroule. Vous voulez devenir comme Mozart, par exemple. Et à un moment donné, j'avais vu ce film, Amadeus. Le film commence avec un monsieur qui dit, j'arrive pas, même si toute ma vie consacrée pour être comme Mozart. Et certainement, si on meurt comme ça, on va continuer. Parce que la vie, c'est un chemin vers la perfection. Pour suivre le projet. Mais dans tous les projets, le secret derrière le projet, c'est la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche soi-même. Vous n'avez pas remarqué, les couples se ressemblent.
À la fin de leur vie, oui.
Je prends un autre exemple, les maîtres, les chiens, se ressemblent aussi. En fait, et ça fait écho. Il y a quelque chose qui doit correspondre. En fait, on cherche soi-même. Mais souvent dans des endroits où il n'y a pas. Comme on m'a raconté cette histoire de Moulay Nasruddin que j'adore. Un jour, la nuit, il y a eu une coupure de courant. À ce moment-là, on a vu Moulay en train de chercher une boîte d'allumettes dans le jardin. Et le voisin dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, une boîte d'allumettes. C'est dans le jardin que vous gardez la boîte de lumière. Non, c'est dedans. Mais pourquoi vous cherchez à l'extérieur? Parce qu'il y a un petit peu de lumière à l'extérieur. Oui, on choisit notre corps en fonction de nos frustrations. Donc, vivez sans frustration. C'est bien compris quand ce chemin que je viens de dire, c'est rester en activité, mais concentrer toute votre attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'action se passe que dans l'instant présent. Quand l'attention est centrée sur ici et maintenant, on sort de ce champ de bataille intérieur. On peut entrer en contact avec l'univers, avec tout, avec ce qui est. Encore un autre? Méditer sur la joie. C'est ça la différence de yoga et les religions. Les religions qui veulent dire, c'est le seul chemin où vous devez passer par là, et sinon, vous êtes foutu. Le yoga nous donne, si ça ne va pas, il y a un autre. Si ça ne va pas, il y a encore un autre. S'il y a une multitude de possibilités. Méditez sur la vie. Mais ça suffit de faire autre chose qu'on est en train de faire. En général, on est sans cesse en train de méditer sur la souffrance. Je prends le journal d'aujourd'hui, le liste de souffrances. Un enfant qui était mordu par un serpent dans l'école. 900 terroristes étaient arrêtés. Plein de gars. Et si vous écoutez des personnes qui parlent, le problème c'est. On a tellement l'habitude de définir le problème, regarder le problème, que des problèmes. Si un jour il n'y a pas de problème, c'est un problème.
C'est bon.
Méditer sur l'argent. Et encore, si il est 9h, les gens sont fatigués. Ce soir, je vous invite de penser à la joie. À la joie.
La joie, ou ce qui nous met en joie ?
Joie pure.
Mais c'est quoi la joie pure ?
Tu n'as pas connu ?
Il y a beaucoup de choses qui nous mettent en joie, mais la joie pure, c'est la joie, je ne sais pas. Mais...
méditer pour savoir ce que c'est la joie pure.